Bonjour, le secrétaire général va vous informer sur la session de travail de ce matin et ensuite il répondra à quelques questions. Monsieur le secrétaire général.
Bonjour, nous venons de conclure une réunion sur le renforcement de la défense et de la dissuasion de l'OTAN. Nous avons évoqué la capacité de l'OTAN à réagir rapidement à toute menace. Possibilité qui dépend d'une structure de commandement souple et robuste. Donc aujourd'hui, nous avons agréé les prochaines étapes pour la modernisation de la structure de commandement de l'OTAN sur la base des recommandations émises par nos commandants suprêmes. Nous avons également fait le point sur le déploiement de nos nouvelles forces de dissuasion en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Les soldats ont commencé à arriver et les groupements tactiques multinationaux, qui sont au nombre de 4, seront opérationnels en juin. Ces groupements tactiques sont la manifestation de l'unité transatlantique et de la résolution de l'OTAN. Et ils permettent d'envoyer, de communiquer un message clair à tout agresseur potentiel. Nos déploiements sont défensifs et s'inscrivent dans une réaction mesurée. Nous n'allons pas tenter de faire correspondre nos forces avec celles de la Russie, que ce soit de soldats, de chars d'assaut, d'aéronefs. Notre but est de prévenir les conflits et de ne pas les provoquer. Nous avons évoqué également notre présence en mer Noire. Nous complémentons notre posture régionale renforcée dans les airs et sur terre sur la base des brigades cadres multinationales en Roumanie. 8 pays de l'Alliance ont décidé de contribuer à hauteur de brigades et 5 alliés ont également engagé des forces terrestres aériennes pour la formation et les missions de police aérienne. Aujourd'hui, nous avons agréé également d'autres mesures maritimes et une force navale accrue de l'OTAN en mer Noire sera mise en place pour assurer davantage de formation, pour améliorer la connaissance de la situation et pour se livrer à d'autres exercices. Et la fonction de coordination maritime pour nos forces navales va être mise en place lorsque nous opérons avec d'autres alliés en mer Noire. Et cela, je crois, montre que les alliés sont solidaires, sont unis et sont forts. La cyberdéfense, c'est une autre priorité pour l'OTAN. Nous avons d'ores et déjà renforcé la protection de nos réseaux. Nous avons établi des équipes de réaction rapide en matière de cyberdéfense et nous aidons les alliés à améliorer leur propre cyberdéfense. Aujourd'hui, nous avons approuvé un plan de cyberdéfense mis à jour ainsi qu'une feuille de route visant la mise en œuvre du cyberespace en tant que domaine opérationnel. Cela améliorera notre capacité à travailler ensemble, nous permettra de développer des capacités, nous permettra de partager les informations. La cyberdéfense s'inscrit dans le cadre de la réponse de l'OTAN quant à la guerre hybride. Les attaques hybrides peuvent affecter nos économies, nos transports et nos réseaux de communication ainsi que la sécurité énergétique de nos pays. Et les mesures que nous avons approuvées aujourd'hui aideront nos sociétés à être plus résilientes et à être plus prêtes. Hier, nous avons décidé de mettre en place un nouveau pôle pour le Sud au sein du commandement des forces interarmées de Naples. Cela nous aidera à mieux comprendre les défis régionaux et à travailler en plus étroite coopération avec nos partenaires. L'un de ces partenaires, c'est la Libye. Hier soir, j'ai reçu une demande officielle de la part du Premier ministre libyen, Faris al-Sarrach, qui a demandé l'avis et l'expertise de l'OTAN en matière de défense et de sécurité et de renforcement institutionnel dans ce domaine. Au sommet de Varsovie, les alliés ont décidé d'aider la Libye si cette dernière le souhaitait. Cette demande officielle a maintenant été communiquée à l'OTAN et le Conseil de l'Atlantique Nord va débattre de la manière dont nous allons devoir suivre cette question et ce dès que possible. Et je suis prêt à répondre à vos questions.
Wall Street Journal. Julian Barnes, Monsieur le Secrétaire Général. Le ministre de la Défense russe a déclaré que le dialogue partir d'une position de force était sans issue. C'est quelque chose que vous dites souvent, le dialogue doit se fonder sur autre chose que la force. Quelle est votre réaction à ce commentaire? Est-ce que l'OTAN recherche encore le dialogue? Est-ce que l'OTAN est prête à modérer ses mesures de dissuasion?
Nous allons continuer à travailler dans le sens du dialogue avec la Russie. Nous ne souhaitons pas isoler la Russie. Nous ne nous voulons pas d'une nouvelle guerre froide. Nous œuvrons pour une relation plus constructive avec la Russie et nous allons continuer de faire cela. Mais bien évidemment, notre dialogue avec la Russie doit être fondé sur des principes de base qui sont le respect de l'intégrité territoriale de tous les pays d'Europe, dont l'Ukraine. Et bien entendu, nous devons associer ce dialogue avec une dissuasion crédible. Et c'est l'enseignement que nous avons tiré au cours de la guerre froide. C'est un enseignement que nous avons tiré et qui nous a enseigné qu'il était possible d'avoir un dialogue, mais en même temps d'avoir une approche ferme qui inclurait une dissuasion crédible. Donc, ce travail a été effectué durant la guerre froide et je suis convaincu que cette stratégie que nous adoptons actuellement est la bonne stratégie pour dialoguer avec la Russie dans un environnement stratégique qui, somme toute, a changé depuis. Nous allons donc continuer à assurer une dissuasion crédible. Nous allons continuer à être fermes et prévisibles. Et en même temps, nous allons tenter d'établir un dialogue plus constructif avec la Russie.
La BBC. Merci. Bonjour, Monsieur le Secrétaire général John Morrison. BBC, deux questions. Pourriez-vous compléter ce que vous entendez par une présence navale renforcée de l'OTAN en mer Noire et... C'est important. Hier, le nouveau secrétaire à la Défense des États-Unis a incité les alliés de l'OTAN à dépenser davantage. Et il a parlé d'une possibilité de voir les États-Unis réduire leur engagement à l'égard de l'OTAN si les alliés ne respectaient pas leurs engagements de dépenses. Qu'est-ce que vous pensez que les États-Unis entendent par là?
Nous avons tous entendu ce message clair de la part du secrétaire Mattis hier. Monsieur Mattis qui a parlé de l'importance du partage du fardeau au sein de l'Alliance, partage qui doit s'avérer équitable. Et c'est un message très clair et très juste de la part des États-Unis. Cela a été appuyé d'ailleurs par tous les autres alliés lors de la réunion, parce que tous les alliés comprennent bien que la force même de notre Alliance repose sur un partage équitable du fardeau et sur l'augmentation du budget défense. Nous devons donc aller vers ces 2% du PIB en matière de dépenses de défense. Et le message du secrétaire Mattis illustre bien la réalité politique des États-Unis actuellement. Et par conséquent, ce message, nous l'avons bien compris. Et nous saluons le fait que la Grande-Bretagne ait maintenant atteint ces 2%. Je salue également le fait que de plus en plus d'alliés sont en train d'augmenter leur budget défense. Et des alliés comme la Roumanie, comme la Lituanie, comme la Lettonie vont très prochainement atteindre cet objectif des 2%. Notre article 5 du traité de Washington est tout à fait inconditionnel. Il est absolu et c'est le cœur même de l'Alliance. Je pense donc que ce qui est important, c'est de ne pas spéculer quant à ce qui pourrait se passer si l'OTAN n'était pas en mesure d'accroître son budget défense. Il faut plutôt se concentrer sur la manière dont on peut mettre en œuvre cet engagement. Nous avons déjà commencé à ce niveau, nous avons déjà inversé la tendance de la baisse des budgets défense à partir de 2015. Nous avons considérablement augmenté ces budgets en Europe et au Canada, et ce à hauteur de plus de 4%. Et nous nous sommes livrés à un débat très fructueux hier, à la fois dans les séances de travail, mais également durant le dîner. Nous avons en effet évoqué différentes mesures, différentes possibilités. Par exemple, l'idée de plans nationaux pour nous assurer de maintenir cette dynamique, cette tendance à la hausse, pour continuer à mettre en œuvre cet engagement en matière des dépenses de défense. Pour la mer Noire, alors, il s'agit de choses assez différentes. Il y a l'élément terrestre, les éléments navals et les éléments aériens. Et il s'agit là de notre force maritime permanente qui va se déplacer plus fréquemment vers la mer Noire. Il va y avoir davantage d'exercices qui seront réalisés avec les autres alliés. Et nous allons également améliorer notre connaissance de la situation par l'intermédiaire d'une présence maritime accrue. Tout ceci sera coordonné par les alliés de l'OTAN. Donc tout ceci sera fait de manière mesurée et coordonnée.
Okay.
Bonjour. Luis Alvaro. Russie Saint-Pétersbourg. Opération dans la mer Noire. Vous avez décidé d'augmenter vos forces navales. Comment est-ce que cela se coordonne avec la doctrine? La convention de Montreux, qu'est-ce qui va se passer en termes d'effectifs et de dates?
Tout ce que nous allons faire sera en accord avec nos obligations et nos engagements internationaux et en accord avec la convention de Montreux. Donc, plusieurs alliés de l'OTAN sont des États qui partagent une partie du littoral sur la mer Noire. La Roumanie, il y a d'autres pays comme l'Ukraine également et la Géorgie qui sont concernés. Nous allons donc accroître notre présence en mer Noire, mais ce sera une présence mesurée, purement défensive, et ce ne sera pas une présence contribuera à une quelconque provocation. Nous ne voulons pas faire escalader les tensions. Cela s'inscrit simplement dans l'adaptation de la dissuasion de la défense de l'OTAN face à un environnement sécuritaire plus difficile dans la région de la mer Noire.
Oui, en fait, je voulais faire un commentaire sur ce qu'a dit le secrétaire Mattis. Il a été assez dur avec les pays européens. Pour ce qui est de l'Italie, le secrétaire de la Défense, Mattis, c'était l'engagement de l'Italie à la garde de l'OTAN. La question est de savoir comment l'Alliance va assurer cet engagement demandé par M. Mattis. Quelles sont les possibilités? Est-ce qu'on va inverser la tendance? Comment est-ce que vous pouvez évaluer la volonté d'un pays d'avancer ou pas?
Ce partage du fardeau, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne les dépenses, c'est également les contributions aux opérations, aux activités de l'OTAN et aux missions de l'organisation. Et par exemple, l'Italie contribue à de nombreux niveaux. L'Italie joue un rôle primordial en Afghanistan. C'est l'un des pays chefs de file sur place. L'Italie contribue également à notre force de préparation également, fait partie de nos forces fer de lance, entre guillemets. L'Italie contribue à notre présence à l'est de nos territoires et l'Italie est chargée également du déploiement de batteries SAMT en Turquie. Cela fait partie des mesures d'assurance pour la Turquie. Donc beaucoup d'alliés contribuent de diverses manières à nos forces, à nos capacités, pour les diverses opérations et missions de l'OTAN. Et je crois que M. Mattis reconnaît ce fait, reconnaît les contributions des alliés européens à notre sécurité partagée. Le secrétaire Mattis a exprimé son soutien sans équivoque envers l'Alliance et il a dit que l'OTAN était un peu son deuxième foyer. Il connaît bien l'OTAN et le secrétaire Mattis est un ami de l'OTAN. Il connaît bien l'organisation mieux que n'importe quel autre responsable au sein de l'OTAN actuellement. Mais en même temps, puisque M. Mattis s'inquiète du futur de l'Alliance, il a communiqué un message ferme à propos de la nécessité de dépenser plus en matière de défense. Et bien entendu, j'attends de tous les alliés qu'ils s'engagent dans ce sens et qu'il respecte les engagements prononcés en 2014. En 2014, où nous nous sommes réunis autour de la même table du Conseil, nous nous sommes tous regardés et nous avons promis d'accroître les budgets défense de nos pays respectifs pour justement rééquilibrer ce fardeau. Donc je crois que M. Mattis n'a fait que réitérer son soutien à l'OTAN. C'est un message qu'il a communiqué de manière assez ferme. Il a souligné l'importance du partage du fardeau.
Sky News, monsieur le secrétaire général. Est-ce que vous vous inquiétez en ce moment du fait que cette question des dépenses pour la défense commence à omnubiler tout le monde?
Je ne m'inquiète pas du fait que nous penchions particulièrement sur les dépenses en matière de défense. Je me réjouis que nous nous penchions là-dessus. Depuis que je suis secrétaire général à l'OTAN, ça a été toujours ma priorité dans toutes les réunions avec les dirigeants de tous les pays de l'Alliance dans les diverses capitales. Et ici à Bruxelles, je me suis toujours penché là-dessus, ça a toujours été une priorité. Et je salue justement l'importance que nous accordons à ce rééquilibrage du fardeau. Mais je salue encore plus le fait que l'OTAN, que les pays de l'OTAN ont commencé à s'engager dans la bonne voie. Je ne sous-estime pas les défis qui s'offrent à nous, le dur labeur qui nous attend également dans le futur, mais cela m'inspire de savoir qu'après de nombreuses années de budget à la baisse, nous avons pu inverser cette tendance à partir de 2014 et qu'en 2016, nous avons pu témoigner de cette importante augmentation. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je crois que c'est assez positif de voir que les pays de l'Alliance ont réussi à inverser cette tendance. Donc je salue véritablement cette évolution positive des choses et le fait que nous nous penchions davantage sur l'augmentation de ces budgets de défense. Et je pense qu'hier, lors des réunions, tous les alliés ont reconnu l'aspect positif de cette tendance. Tous les alliés ont en effet dit que nous devions respecter les engagements prononcés en 2014 à propos du partage du fardeau.
Yann, hier vous avez dit que les ministres de la Défense ont commencé à discuter de l'idée des plans nationaux, des jalons à franchir pour garantir un progrès constant pour atteindre l'objectif de 2% du PNB consacré à la défense. Est-ce que vous avez envisagé un calendrier pour l'élaboration de ces plans nationaux? Est-ce que vous pensez que ces plans devraient être prêts avant le sommet de l'OTAN en mai pour que les chefs d'État et de gouvernement puissent les confirmer? Notre question, selon toute probabilité, vous allez rencontrer le président de l'Ukraine à Munich. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Quelles sont les avancées que vous attendez de l'Ukraine pour 2017? Je vous remercie.
Tout d'abord, l'idée des plans nationaux a été évoquée hier. Je crois qu'il est encore trop tôt pour conclure sur ce que nous allons faire, concrètement parlant. Mais c'est une idée qui a été évoquée autour de la table et cette idée va être étudiée plus tard. Mais je salue toute idée qui va dans ce sens. Nous devons examiner toutes ces idées, toutes ces possibilités. Nous devons voir si nous pouvons effectivement créer des outils qui nous permettent de vérifier si, oui ou non, nous respectons nos engagements en matière de dépenses de défense. J'aimerais également dire que il y a un fort soutien envers cette augmentation dans les budgets de défense, mais tous les alliés ont également dit qu'il fallait se pencher sur les résultats à concrétiser. Il ne s'agit pas simplement de savoir combien on va dépenser, mais de voir comment on dépense ces fonds. Donc il faut dépenser plus, mais il faut dépenser mieux également. Et je crois que dans le cadre de cela, le but est de s'assurer que tout le monde travaille ensemble. Nous avons ce concept de pays cadre, nous avons ce concept de développement capacitaire conjoint, et au cours de la dernière réunion, beaucoup d'alliés signent des accords divers visant à établir des capacités, par exemple de ravitaillement en vol, des capacités conjointes. Je sais que divers alliés signent donc des accords bilatéraux pour apporter davantage de synergie, et c'est ainsi que nous réalisons des résultats beaucoup plus efficacement. Je vais rencontrer Monsieur Poroshenko. Je rencontre Monsieur Poroshenko assez régulièrement. Je m'entretiens avec lui par téléphone. La semaine dernière, nous avons accueilli le Premier ministre de l'Ukraine qui est venu à l'OTAN et qui a siégé au Conseil de l'Atlantique Nord. Nous avons donc un dialogue politique très rapproché avec les responsables de l'Ukraine, avec le gouvernement, avec le président. Et l'OTAN va continuer d'apporter un soutien politique, un soutien pratique à l'Ukraine. L'Ukraine qui est un partenaire de l'OTAN et pour nous, ce partenariat avec l'Ukraine est important. Nous n'avons pas le temps pour d'autres questions, mais le secrétaire général reprendra la parole dans 2 heures à peu près. Merci.